VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, deux policiers et un civil tués ce week-end dans une attaque contre un poste de police non loin de la frontière nigéro-burkinabé. Le ministère nigérien de l'Intérieur parle de terrorisme. Jean-Roger Bion.
L'attaque menée par des hommes armés a visé samedi tard dans la soirée un poste de police de la région de Tillaberi, situé à 10 km de la frontière avec le Burkina Faso. Le bureau du commissaire de police où étaient stockées des armes a été incendié et plusieurs armes emportées par les assaillants qui ont également endommagé 5 véhicules, dont un de la police et 3 appartenant à des policiers, selon les autorités. Les assaillants ont pris la fuite vers le Mali voisin, annonce l'AFP, qui cite une source sécuritaire. Écumées par des bandes armées terroristes, les régions nigériennes de Tillaberi et Tawa, proches du Mali et du Burkina, sont considérées comme très dangereuses. Niamey a d'ailleurs décrété depuis le 3 mars l'état d'urgence dans la région. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés. La circulation de voitures et de motos dans plusieurs zones de l'Ouest ont été interdites. Par ailleurs, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une force tripartite sur leurs frontières communes, en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels en tout genre. Mais elle n'a pas encore été mise sur pied.
Au Burkina Faso, les mouvements de la société civile se mobilisent pour dénoncer la gouvernance du régime en place. La coalition Bouribana veut convaincre le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kabore de prendre une trajectoire qui tienne compte, je cite, des aspirations des populations. Safietou Lopez-Zongo est la porte-parole de cette coalition.
Nos dirigeants n'ont plus en tête l'esprit de l'insurrection populaire qui devrait les guider vers la mise en œuvre de bonnes politiques publiques. Nous rappelons à nos dirigeants que notre peuple s'est battu pour plus d'équité, de liberté et de justice sociale. Raison pour laquelle nous interpellons le président du Faso afin qu'il prenne toutes ses responsabilités face à la situation du pays. Notre peuple a besoin de réformes courageuses qui peuvent améliorer ses conditions de vie actuelles.
Safietou Lopez-Zongo, porte-parole de la coalition Bouribana au Burkina Faso. Politique en RDC maintenant, lancement dimanche à Paris par des leaders politiques congolais d'un directoire national pour une transition sans Kabila. Le président Joseph Kabila, en théorie, ne peut pas se succéder à lui-même, mais l'accord du 31 décembre 2016, censé ouvrir la voie aux élections, continue de connaître des difficultés dans sa mise en œuvre. On écoute Annie Mishimba Makinu, vice-président du directoire national pour une transition sans Kabila.
Notre plan, c'est déjà de réunir, de sensibiliser les Congolais à venir nous rejoindre dans ce directoire pour que nous puissions mettre en place des idées et mettre des stratégies et évincer Kabila du pouvoir. Parce que de toutes les façons, il est maintenant illégitime, illégal. C'est un ex-président, ce n'est plus un président pour nous en fait. Donc nous voulons emmener le Congolais à la conscientisation, à propulser, à booster le Congolais afin qu'il comprenne les enjeux qu'il y a derrière. Il faut qu'il redevienne souverain, il faut qu'il devienne décideur de son avenir. Et nous savons qu'ensemble, que la force, la synergie, la dynamique d'un peuple, c'est une arme en fait. Donc nous, on a l'arme, notre arme c'est le peuple. Et le Congolais doit s'approprier vraiment la Constitution, vraiment s'approprier cet article 64 qui dit qu'on ne peut pas se laisser gouverner de force.
Annie Mishimba Makinu, vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila, jointe à Paris. On reste en RDC, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs est en cours à Kinshasa depuis dimanche. La première semaine d'opération ne concerne que 4 des 24 communes que compte la capitale de la RDC. Mais Corneille Nanga, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se veut optimiste.
Nous venons de lancer l'opération à Kinshasa et nous venons en fait de commencer dans quatre communes. La commune de la Gombe, la commune de Lingwala, la commune de Kinshasa et la commune de Barunga. À partir de la semaine prochaine, donc le vendredi, nous allons nous étendre sur les restes des communes et nous allons donc atteindre la vitesse maximale. C'est un grand jour. Plus ou moins 4 500 électeurs attendus à Kinshasa, mais les Kinois me disent que non, 4 millions c'est peu. La balle est dans notre camp, nous Kinois. Enrôlons-nous massivement, avec discipline, sans beaucoup d'hésitation. Enrôlons-nous massivement pour que nous atteignions 5 millions, 6 millions, pourquoi pas 8 millions.
Corneille Nanga, président de la CENI, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a échappé une nouvelle fois à une motion de censure, cette fois au sein de la direction de son propre parti, l'ANC, ce week-end. C'était lors d'une réunion du comité exécutif national de l'ANC à Pretoria. Le président Zuma reste sur la sellette, surtout à cause d'un remaniement ministériel controversé à la fin mars. Les explications de David Zunmenou-Dossou de l'Institut d'études sur la sécurité de Pretoria, au micro de Timothée Donangmaï.
Je pense que cette motion de censure, la deuxième déjà en 6 mois, intervient dans un contexte un peu difficile, aussi bien pour l'ANC que pour l'Afrique du Sud, qui a vu un peu son statut relégué au statut d'État en défaillance, et également au moment où même les partenaires traditionnels de l'ANC expriment des mécontentements par rapport à la situation politique du pays, à la façon dont l'ANC répond à certains problèmes, à certaines critiques dirigées contre le président. Mais c'était sans espérer, en tout cas, que cette motion de censure allait prospérer au sein de l'ANC, car cela pourrait avoir de graves conséquences, surtout qu'on est à 6 mois de la conférence élective de l'ANC, où on connaîtra le prochain dirigeant du parti et indirectement le prochain président de l'Afrique du Sud.
David Zunmenou-Dossou de l'Institut d'études sur la sécurité à Pretoria. Au Cameroun, des arrois des cacaoculteurs issus des écoles paysannes du pays. Le prix du cacao a chuté sur le marché mondial et pourtant les diplômés de ces établissements ont suivi un programme agricole visant à les aider à produire un cacao de qualité. Reportage dans deux villages de la zone d'Elik Mfomo, à 60 km environ de Yaoundé, la capitale, avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
La création de 34 écoles paysannes dans la zone a contribué aux bonnes pratiques agricoles ici. Des écoles qui ont aussi ouvert leurs portes aux femmes. Odile Nkoussa est une veuve. Elle y a fait ses classes et sa plantation cacaoyère est présentée aujourd'hui comme un laboratoire de qualité dans son village à Tala 2.
Notre formateur nous avait appris à rajeunir le champ. Quand une fille de cacaoyère est déjà très vieille et quand elle fait sortir les gourmands, et j'ai aussi pris la méthode de prendre les cabosses dans ce champ, faire la pépinière et planter comme vous le voyez.
Vous récoltez combien le sac de cacao ici?
Une année, je récolte souvent plus d'une tonne.
Sur l'ensemble du territoire national, près de 800 écoles paysannes d'apprentissage de bonnes pratiques agricoles assistent les cacao-culteurs. Objectif, changer la mauvaise réputation autour du cacao camerounais. Comme le confirme André-Marie Assina Elouma, coordonnateur national du programme d'appui à la gestion de la qualité de la production des filières café cacao.
La chaîne qui va de la cabosse qui est récoltée jusqu'au sac qui va dans le marché a beaucoup de problèmes. On a de mauvaises réputations qu'il y a les odeurs de fumée, il y a les odeurs de goudron, il y a les odeurs de fermentation. On peut créer une crème de cacao qui reflète les standards internationaux de qualité. Et on a des partenaires qui sont prêts à le prendre. On a amélioré le budget du projet cette année pour qu'on puisse vous doter en équipement pour ces récoltes.
Il reste que le rapport qualité-prix du cacao ne suit toujours pas. De quoi laisser les cacaoculteurs de la zone dans le désarroi et face aux coxeurs impitoyables.
Il y a des exportateurs qui ont des coxeurs qui leur donnent de l'argent pour venir ramasser notre cacao.
Lorsque le coxeur se présente devant toi, tu as peut-être un 5 sacs. Tes enfants doivent aller à l'école. Tu n'as pas d'autre choix.
Justement, la visite des investisseurs étrangers dans ces bassins de production de cacao de qualité visait à donner aux cacaoculteurs la conduite à tenir dans le contexte actuel où le prix du cacao est à la baisse sur le marché mondial. Narcisse Olinga, sous-directeur des échanges extérieurs au ministère du Commerce du Cameroun.
Vous serez rémunéré à un prix au-delà de ceux qui ne font pas la qualité. C'est pour cela que nous sommes ici avec ces investisseurs qui sont justement à la recherche de ce produit de bonne qualité.
À l'horizon 2020, le Cameroun compte produire 600 000 tonnes de cacao. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA, Afrique.